Alors, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire un petit mot sur le groupe?
D'accord. Donc, je suis Bruno. Donc, Bruno Close. Je suis guitariste de Charcot. Je suis arrivé en 2014 dans le projet pour intégrer donc le projet live après la création du volume 1 en studio. Voilà.
D'accord. Le nom, il y a une explication particulière?
Alors, il y a une explication dont on peut pas expliquer pour l'instant. Tout ce que je peux dire, c'est que la signification, c'est qui sème le chaos.
D'accord. Voilà. D'accord. Les amateurs d'énigmes chercheront.
Exactement.
Parfait. Pour les gens qui, par hasard, auraient jamais entendu le groupe, est-ce qu'il y a peut-être un moyen d'écrire un peu votre démarche de la musique sans forcément donner des étiquettes, parce que c'est pas forcément très intéressant, mais peut-être par les influences qui vous rassemblent tous?
Alors, les influences musicales qui nous rassemblent essentiellement, on peut dire qu'on écoute à peu près tous de l'électro-métal, mais on est plus à écouter du Rammstein, les débuts de Manson. Enfin, on a écouté les débuts de Manson, après on a plutôt lâché. Rob Zombie, Nine Inch Nails, voilà. Ce serait dans cet univers-là.
Moi, je suggérerais un, Zombie Christ, il rentre ou pas?
Oui, bien sûr. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est pour les gens qui sont vraiment les initiés, là.
D'accord.
Là où, quand on commence à parler de Zombie Christ, de Air Pressure, de Oomph, tout ça, on écoute.
Ok, la Deutsche Werte, d'accord.
Oui, tout à fait.
Ok, ouais. Okay. Non, parce que je trouve, en particulier visuellement, je sais pas. Bon, musicalement aussi, avec mes sources mélange métal et électro, mais je trouve visuellement, à tort ou raison, ça m'a fait pas mal penser aux Norvégiens.
Très bien, oui, on ne l'avait jamais encore dit. Mais...
Peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont pu peut-être toucher Zombie Christ, s'ils ont vu en première partie un des musiciens, Lenz, qui a fait pas partie de Rammstein en France.
Mm-hmm.
Voilà, ils ont peut-être touché un peu ce que c'est Zombie Christ. Peut-être toi plus en tant que musicien avant l'aventure, voilà, comment tu t'es construit, tes références, de projets précédents que tu veux aborder?
J'ai eu des projets. Moi je suis un multi-instrumentiste en fait, donc j'ai commencé par faire de la batterie pendant une douzaine d'années. J'ai fait deux ou trois groupes pendant à ce poste-là. Et après, petit à petit, je me suis mis plus à faire mes propres compos. Donc, j'ai fait du clavier, de la guitare, de la basse, monté aussi ma formation.
Un peu touche à tout par un peu obligation, do it yourself, donc il faut un peu touche à tout
pour l'intérêt. Ouais, pour l'intérêt, c'est qu'au bout d'un moment, la technologie a fait qu'on pouvait avoir son propre studio chez nous, à Kelly Studio. Donc forcément, je me suis mis à étoffer un peu plus mon champ de jeu, on va dire, en prenant le poste de guitare, faisant de la basse. Donc, mais chez Chargotte, c'est guitariste, alors que j'étais prédestiné à avoir un poste multi-instrumentiste, en fait. Et la première répète, le guitariste qui devait être là n'est jamais venu. On l'attend encore.
Ah.
Donc comme j'avais, si tu veux, bon après il s'en est mordu les doigts, mais tant pis. Mais comme j'avais ma guitare, c'est parti, on a répété quand même.
Et ça génère pas de frustration de ton côté de
pas du tout.
Rester sur un rôle entre guillemets?
Ah non, au contraire.
D'accord.
Non, au contraire. Non, c'est d'avoir le rôle de guitariste dans Charcot, c'est quand même pas
c'est sportif,
c'est pas neutre. Ouais. Voilà.
Donc justement, le groupe a pu apparaître en particulier. Bon, il y a un premier EP qui a peut-être commencé à faire parler de vous. Il y a eu surtout donc l'album, le volume 1.
Mmh.
Finalement, de votre point de vue en interne, qu'est-ce qui s'est passé pour vous de clé depuis justement volume 1? Plus précisément, qu'est-ce qui a généré volume 1 pour vous?
Alors, le volume 1, c'est essentiellement Étienne qui l'a enregistré. Hein. Donc, c'est une version de Chargotte, mais qui n'est pas encore au volume 1, abouti, quand ça a été fait, abouti à la scène. C'est venu en cours.
Donc, pour revenir pour bien à ce que tu disais, toi, tu as intégré le groupe parce qu'il voulait mettre ça sur scène et
voilà,
des mecs autour de lui.
En fait, c'était prévu, mais ils rencontrent énormément de problèmes à trouver les bonnes personnes, en fait. Donc, il y avait une certaine lassitude. Donc, Étienne et Godfather, qui est notre producteur et ingé son, ils ont continué à travailler. sur ce projet-là. Moi, j'y suis arrivé à moitié sur le projet volume 1, qui était pratiquement terminé en fin de compte. Et la mission, en fait, ça a été de pouvoir le mettre sur scène.
D'accord. Finalement, là aussi, c'est peut-être un hasard, mais si on regarde l'ensemble des sorties, c'est une sortie EP ou album tous les 2 ans.
Oui.
Parce que vu de l'intérieur, c'est un rythme, c'est votre rythme naturel ?
Ben, pour l'instant, c'est le rythme, ouais, c'est le rythme qui, c'est tout à fait naturel, ouais.
Et alors, question subsidiaire, on aurait pu dire, ben, après volume 1, bon, ouais, 2-3 ans après, volume 2 ou un album, et vous faites le choix de sortir un EP. Alors, est-ce que c'est une contrainte financière, parce que ça coûte beaucoup cher, donc est-ce que c'est une première étape, c'est un moyen de se rappeler à votre public, c'est autre chose, je sais pas.
En fait, l'EP n'aurait pas dû sortir tout de suite, ou peut-être pas sortir. Mais il y a une volonté de le faire, parce qu'il y avait une attente. Certains titres, nouveaux titres qu'on jouait sur scène, les gens nous disaient, ouais, mais on peut pas l'écouter chez nous. On aimerait bien, mais oui, mais quand on fait une captation, le son est pas terrible. Donc on s'est décidé à dire bon bah finalement on va peut-être faire un EP avant le deuxième album. Voilà, tout simplement.
Et l'EP servira de base au deuxième album ou vous repartez en
tirant? Ah non, il y a quatre titres qui vont figureront sur le nouvel album.
C'est un avant-goût de l'album.
Tout à fait, okay, tout à fait. Ouais, ouais.
Vous allez retravailler les titres ou ils vont être à l'état?
Non, ils vont pas être retravaillés.
Là aussi, en interne, comment, quel est le processus de création habituel, s'il y en a un, au sein du groupe de création d'un titre? Quelqu'un, l'un d'entre vous arrive avec une base?
En fait, c'est Étienne qui détient toutes les clés, en fait, puisque c'est son univers. Donc on peut très difficilement, nous, amener des compos. On pourrait, mais on le fait pas parce que c'est lui qui, enfin, toutes les compos ont un lien, ont une ambiance, enfin, il sait vraiment là où il veut aller. Il sait pas comment, mais il sait où il veut aller. Du coup, quand il arrive avec des idées, il défriche, en fait, il va chez, donc il travaille avec Clem X, le bassiste, parce que la particularité dans Chargotte, on a tous un home studio. Voilà. Donc déjà pour travailler, c'est très très flexible, quoi. Voilà. On n'est pas contraint d'aller à une certaine heure. Donc il va chez Clem, ils défrichent ensemble les idées d'Étienne.
Et c'est quoi? C'est un riff? Ça peut être un loop, ça peut être une.
C'est ça, ouais. Il a des notes dans la tête et il dit voilà, j'aimerais bien voir ça, j'aimerais que ça soit comme ça, la guitare, j'aimerais qu'elle fasse comme ça, voir si c'est possible ou pas, voilà. Donc ils commencent à défricher ensemble. C'est un travail quand même assez fastidieux, assez compliqué parce que c'est pas.
On voit ce qu'il y a dans la tête.
Voilà. Ensuite, une fois que le morceau commence un peu à tourner, on en est à quoi, 50% de la compo, moi j'arrive, et puis avec un regard tout neuf, une écoute tout neuf, voilà, je dis ce que j'en pense.
Ouais, mais t'arrives, mais t'as quoi donc? T'as une.
Ah, mais j'ai pas grand chose.
Tu vois, c'est un squelette, base, t'as un rubrique.
Bon, ouais, voilà, c'est même pas. C'est un trois quarts de squelette avec un peu de muscle là, d'accord, un peu de.
J'ai une évocation de ce que ça pourrait devenir.
Voilà, et on me dit, ouais, regarde, oui, ok, bah super, ouais, ouais. On discute, on regarde. Ensuite, on continue à travailler. Une fois qu'on pense avoir fini, on le donne. Donc à Godfather, et qui lui continue l'arrangement, mais aussi, si tu veux, avec carte blanche, en disant carte blanche. Et il n'hésite pas,
il coupe, il te trifouille le truc. D'accord.
Il remet un peu, il enlève un peu le côté longué qu'il peut y avoir sur certaines choses. Enfin, il a un regard neuf, lui, donc il a un produit qui est fini. Pour nous, c'est fini, mais pour lui, c'est pas fini. Il y a encore beaucoup plus de choses à faire. Bon. Donc, c'est arrivé qu'un morceau, il me fasse écouter, et puis. Mais je jouais ça. Non, mais j'ai enlevé deux notes.
Tu vois pas le rapport avec ce que j'avais pour eux.
J'ai enlevé deux notes parce qu'elles étaient inutiles.
Ah ouais, c'est.
Ah oui,
conseillé pour le pointu. Ouais.
Ah oui, c'est chirurgical. Ouais. Voilà. Et en fait, bon, c'est vrai que c'est notre force parce qu'en fait, il y a très peu de gens, très peu de musiciens qui accepteraient. Qu'on touche à leur compo alors que nous, non mais vas-y.
Après, c'est votre force parce que, effectivement, à l'écoute de l'EP, c'est très. concentré, tu vois, c'est très, tu prends un peu, ça commence un peu doucement, enfin, le premier titre, et après, boum, ça te pète à la figure,
ouais.
Il y a ce côté, voilà, archi compact, qui est peut-être aussi sa patte dans l'absolu, où le créateur, parfois inconsciemment, il a toujours envie d'en faire plus, alors sans sortir un machin de 15 minutes, mais au moment, peut-être que 6, ça peut suffire 4, quoi.
Ouais,
des exemples, je sais pas... de Metallica où on dirait qu'il serait beaucoup plus efficace si on le divisait en deux. C'est un exemple.
Voilà. Il y avait tout à fait.
D'accord.
Mais sauf quand on s'appelle Metallica, on peut peut-être se permettre de faire un morceau de 7 minutes ou dire oh, génie.
Oui, puis ils peuvent en faire, ouais, ils peuvent faire des albums de 70 minutes, on s'en fout. Enfin, voilà. Ils se le permettent. Quoi. Parce que finalement, là aussi, l'impression à l'écoute, c'est quand même des titres. À part potentiellement une mélodie ou un refrain accrocheur. Comme Break Your Body, où voilà, on a cette phrase qui revient régulièrement, c'est un peu difficile d'avoir une ligne directrice dans le titre. Alors c'est peut-être l'effet de je prends un machin, je fais un shaker, et alors la ligne directrice, elle a explosé dans le...
Alors ça, c'est le côté tordu, parce que même des fois, pour jouer certaines parties à la guitare, mais pourquoi 3 et pas 4 ? Ouais, parce que c'est comme ça, je me sens mieux comme ça. Ok, d'accord. Mais c'est, ça enlève un peu les acquis qu'on a tous.
Ouais.
Bah non, on fait pas 3, on fait 4, c'est pas bon comme ça. Ah non, 3. Voilà.
Bon. Alors toi, finalement, vous avez une réacclimatation, une réintégration a posteriori des titres.
Des fois, ouais.
Il y a un machin, le truc est recyclé, puis après, t'as un truc qui ne prend plus.
Ouais, voilà. Ouais. Mais ça, je veux dire, il y a beaucoup de formations qui ont ça, ce travail d'arrangeur. On verra rien, un arrangeur qui prend les choses en main et qui dit, non, j'aurais plus ça comme ça.
Et donc, sur Break Your Body, en termes temporaires, en termes de temps, si on prend les différentes phases, ça s'est déroulé sur quelle période?
Tu as le temps des
les premières heures, les idées sortent, se faire travailler, machin, et vous arrivez au produit final, il y a combien de temps entre les deux ?
Ouais, il y a bien 7-8 mois.
Sur cette période-là, à quel moment vous avez besoin de à un moment ou un autre, vous retrouver tout ensemble ? Ou vous n'avez finalement pas beaucoup de temps, parce que c'est des échanges de fichiers comme vous...
Il y a beaucoup d'échanges de fichiers, mais on se retrouve ensemble, on se retrouve ensemble naturellement, parce que déjà, on se côtoyait déjà dans la vie de tous les jours.
D'accord.
Donc on se retrouve pour travailler, effectivement, on se retrouvait quand même au moins une fois par semaine. Ça, c'est obligatoire.
Ce qui me semble aussi important pour le groupe, c'est le visuel que vous donnez sur scène. Il y a la musique, mais alors là, pour les amateurs, la référence Rammstein vient assez vite à l'idée. Bon, Comicrate, si je vois un peu sur ce domaine-là, il y a le côté j'en donne pour tes oreilles, mais j'ai besoin aussi de t'en donner pour le visuel.
Oui.
Là, je suis tout en noir, c'est extrêmement énergétique, il y a un travail sur les lumières, c'est limite hypnotisant, thromboscopie, etc. Bon, vous avez votre marque de fabrique, le fait d'être tout en noir, etc. Quand vous travaillez des titres ou des morceaux, à quel moment cet aspect visuel rentre en jeu ? Ou à quel moment vous le...
Très bonne question, parce qu'en fait, c'est un peu la différence entre le volume 1 et ce que tu peux entendre sur l'EP. On sent très nettement que l'EP est beaucoup plus lourd, beaucoup plus sombre, beaucoup plus ambiance, beaucoup plus... Il y a quelque chose qui est en plus par rapport au volume 1.
Encore plus fait pour la scène ?
Oui, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'à un moment donné, l'image qu'on renvoie a besoin aussi d'être assise par la musique et certaines ambiances. Et c'est pour ça que dans l'EP, c'était pour nous, je dirais que le côté visuel a contribué à ce qu'on arrive à une espèce ici de visuel sonore. Tu vois ? D'ambiance où on peut être en immersion. Into the Deep, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le côté instrumental où, qui fait que ça c'est typiquement une ambiance qu'on avait créée pour la scène.
Mais en intro, pardon, avant de démarrer,
ouais, tout à fait.
Les lumières s'éteignent, ouais. ça démarre, ouais, et là, ouais. Les mecs commencent à s'immerger dans le truc.
Ouais, voilà, c'est
parce
ça.
Que, effectivement, vu la musique, l'énergie, la violence que ça génère, on vous imagine pas assis sur des chaises à jouer statique. C'est pas.
Non.
Voilà, il y aura un tel décalage, les mecs, personne ne comprendrait.
Non. Il vaut mieux. En fait, ce qui se passe, c'est que sur des moments comme ça, Into the Deep arrive aux trois quarts du concert, c'est le moment break où on reste pas sur scène, on la quitte.
Vous laissez respirer comme les mecs dans la salle.
Et on les laisse avec eux-mêmes.
D'accord.
Entre eux.
Ok.
Voilà.
Avec le, je pense que il y a un côté, bon, ils sont un peu cinglés les mecs en face, donc est-ce qu'ils vont même revenir? Je pense qu'il peut y avoir
ça peut être ça, ouais.
Faudrait tester un truc. Vous revenez pas un jour, bon, vous allez peut-être un peu vous faire allumer derrière, mais
ce serait pas, bon, non, serait pas sympa pour un mais... mais on est toujours revenu.
D'accord. Et donc sur les maintenant armés de cette nouvelle épée, vous avez d'autres envies, justement, scéniques? Vous avez déjà d'autres idées visuelles?
On a déjà plein d'idées, sachant que Étienne et moi, on s'auto-alimente sur les idées visuelles.
D'accord.
Parce que si dans le processus, je dirais, musical, j'arrive à un moment donné où j'ai juste une vision ou un arrangement à faire, donc côté visuel, je suis beaucoup plus proche d'Étienne parce qu'on se complète vraiment. Dans Chargrande, on a compris aussi que, intelligemment, que c'est pas la peine d'être tous à un endroit pour faire ça. Chargrande, c'est tellement un 50% de visuel et 50% de musique que les forces, la grande force, si elle est plus dans l'artistique, on va travailler dans l'artistique. Moi, je travaille plus sur le côté mise en place, mise en scène avec Étienne. Sur la création vraiment de l'album.
Et juste pour donner une question un peu idiote, mais qui est intéressante pour les coulisses, il vous faut combien de temps de préparation avant de monter sur scène?
Entre, on va dire 1h15, 1h30.
D'accord.
Alors certains persos, comme Baclem à la basse, c'est pas long puisque c'est visage et voilà, et puis.
C'est le vêtement,
le batteur c'est pareil, pas grand chose. Étienne, lui, il est torse nu, donc le corps, donc c'est facilement 1h15 en tout pour se préparer.
D'accord.
Et moi je mets un peu plus d'une heure aussi, parce que bon, j'ai les cheveux.
Vous avez intégré ce temps-là dans une mise en état d'esprit particulier, une espèce de mise en concentration, ça rentre dans le
oui, tout à fait.
La création avant l'explosion de la scène.
Quand on est là, puis, quand on commence, ça y est, il faut qu'on se prépare, tu sens que on redescend d'un cran, on parle, mais on déconne plus comme on sait que ça y est, on va rentrer dans le concert. On est déjà en train de rentrer dans notre concert en fait.
Cool.
Une fois qu'on est prêt, on est dans notre concert déjà. Et on est prêt une heure avant. Donc
il y a même la dernière heure qui est même limite là où vous bouillonnez quoi.
Ouais, on commence à vraiment être à rentrer dans le rentrer dans notre personnage. Hein.
D'accord. Toujours dans le domaine visuel, donc il y a la pochette. Qui est. Alors autant volume 1 elle était relativement sobre. Donc voilà, autant là vous annoncez cette couleur tout de suite.
Tout à fait.
Comment ça s'est travaillé?
Ben en fait, on a une personne qui s'appelle Yann, qui a créé qui a fait le graphisme, donc tout à la main, à la palette.
Oui, donc c'est un. Ah oui, d'accord.
Donc on est dans le dessin, là, vraiment, véritablement. Et nous, on affectionne beaucoup tout ce qui est côté comics, tout cet univers-là, un peu comics, dessiné. Donc on voulait absolument retrouver le comics. Et je pense que ça va nous suivre longtemps.
Là, je sais pas, il y a un petit côté The Riddler de certains personnages, ou un peu Joker. Enfin, il revient bien.
Bah, c'est ça. C'est déjà on affectionne un peu tout l'univers de l'univers Gotham.
Mm-hmm.
Ça, on adore.
Voilà, plutôt que c'est Bad Guys, quoi.
Ouais, voilà.
Les Batman, c'est moins rigolo.
Ah, c'est moins rigolo. Mais voilà, donc ça, oui, c'est vrai, quand on voit Chargrande comme ça, on a l'impression de voir un petit côté Joker.
Un peu
l'homme mystère.
Ouais, l'homme mystère, voilà. Ouais.
C'est
du vert, bon, il manque les points d'interrogation. Il a la chapeau de forme aussi.
Oui, c'est ça.
Enfin, le chapeau rond.
Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. On retrouve un peu cet esprit comique qu'on a fait.
Mais c'est lui qui vous a proposé ce visuel-là ou c'est vous qui avez dit, je veux voir ça derrière, je veux ce mec devant?
C'est une femme.
Donc cette dame,
Lian,
vous lui avez donné.
Qui a 23 ans,
bon, et qui est très joli coup de pinceau,
qui a du talent. Vraiment du
et talent. Donc vous avez décrit très précisément la scène ou c'est elle qui a, je sais pas, à partir de la musique, des paroles, qui a proposé cette scène-là?
En fait, on voulait déjà faire une pochette qui n'était pas trop sérieuse. Parce qu'on voit quelqu'un en train de se faire défoncer une dent qui part, bon, c'est le côté un peu comics. Mais tout en mettant quand même en action, enfin, on commence à révéler comment les Shadows apparaissent, ou, enfin, Voilà, on voit qu'il y a un laboratoire avec des cuves, ça y est, on commence à...
Toujours, on avance un peu dans l'univers du groupe.
Voilà, c'est ça, ouais. Petit à petit, on révèle des épisodes. Fin de compte, EP, album, ça va être des...
Une continuité ?
Une continuité. Parce que l'histoire a été écrite, enfin, Étienne l'a écrite jusqu'au volume 5.
Ah oui, d'accord, donc vous avez pas mal de visibilité.
Ouais, voilà.
C'est de l'autoproduction ?
Autoproduction.
Choix voulu assumé ou obligation ?
Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de label en France déjà qui
se... Vous avez un peu arrosé ? Vous avez un peu testé le mal ?
Oui, mais alors, c'est pas prétentieux ce que je vais dire, mais à la limite, on n'en a pas besoin pour l'instant. On n'en a pas besoin pour l'instant. On a déjà donc Godfather qui a déjà sa structure pour produire, je dirais, on est plus produire plutôt. Et aujourd'hui, ce qu'on recherche plus, nous, c'est avoir un distributeur.
Oui, de toute façon, maintenant, les contrats de label, c'est je fournis le produit fini.
Ouais,
et la valeur ajoutée qu'il faut avoir, c'est mettre ça dans le magasin, dans les FNAC.
Voilà, ouais. C'est ça. Donc, ou alors, il faudrait trouver un label qui soit pas de taille moyenne, mais plus gros, parce que derrière nous, on a des ambitions aussi scéniques avec des décors qu'on a déjà, d'ailleurs, ils sont faits, mais qu'on peut pas amener avec nous parce que logistiquement parlant,
bien manque les machins, enfin voilà, c'est pas le même.
Il faut emmener, alors sans aller jusqu'à un SMI, mais
du matos,
déjà un bon camion, mais seulement c'est surtout après, c'est comment on installe ça.
Oui, vous n'avez pas l'armée de rôdis avec vous.
Oui, et puis surtout après, les salles elles sont pas vraiment équipées parce que il faut leur demander telle structure pour qu'ils puissent accrocher la déco. Qui est de la déco quand même assez pas lourde, mais qui
c'est pas de la déco gonflée. C'est pas une sébage tendue.
Voilà, c'est ça. Non, avec c'est vraiment. C'est la déco qu'il y a dans le clip Traders Must Die. Il n'y a rien, on voit très bien qu'il y a des ventilos qui tournent et tout. Bah, ça existe. Hein.
D'accord.
C'est de la déco qui est entreposée actuellement. Et qui est là. Voilà.
Donc en train de vous prête sa scène.
Ouais, alors en fait, toute la déco en fond, c'est ça m'appartient, c'est moi qui l'ai faite. Donc pour la petite histoire, on a parlé comme ça. On travaille pas mal avec des conventions de tatouage, choses comme ça, qui veulent une scène Mad Max. Mmh. Donc ils me la demandent et puis je remonte et tout.
D'accord.
Donc mais oui, puisque étant fan de Rammstein, forcément, on ressent un peu.
Mais et puis en plus même le côté quasi organique, un peu verdâtre, c'était de Mutter quand ils descendaient de la naissance, là.
Ouais.
Ça pétait, c'est la classe. Quoi. Bon, après ils ont des moyens que voilà.
Voilà,
que
c'est ça.
Je souhaite un jour. Hein.
Ben, nous aussi.
Donc comme tu disais, vous avez donc vous avez tiré un premier clip, ou en tout cas un clip qui s'est pas mal diffusé, qui était donc Traders Must Die. Vous annoncez sur Facebook qu'il y a la suite, qu'il y a un autre clip qui est dans les qui est en finalisation, qui est le Break Your Body, donc le
bon
titre. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà potentiellement sur l'enregistrement, la phase de réalisation de ce clip, et de votre point de vue, un clip c'est toujours un outil sympa, mais à faire c'est plutôt une bénédiction, s'il vous plaît, sachant que...
Pour répondre à ta première question, donc un clip c'est toujours sympa à faire, sauf que les endroits dans lesquels on tourne sont parfois difficiles.
Oui, voilà. Il faut une petite ambiance. Ouais.
Donc il faut une ambiance. Donc il faut déjà trouver l'ambiance. Donc on est passé de la cave à un espèce de squat. Et là, pour Break Your Body, c'est une partie d'un hôpital désaffecté à Paris.
Ouais, c'est la bonne ambiance.
Voilà. Donc dans ces sous-sols. Mais dans ces sous-sols, il y avait une sous-station vapeur qui fonctionnait encore. Et donc il faisait 37 degrés. 37 degrés. Donc là, c'est une plaie. Pas pour Étienne parce qu'il est torse nu.
Oui, mais pour les autres.
Mais pour moi,
mais pour moi,
c'était super difficile. Le processus, Étienne, étant donné que c'est son univers, là, c'est lui qui écrit tout le clip.
C'est aussi, est-ce que ça sera aussi un mélange du groupe et une partie scénarisée, comme sur Trader?
Ah, mais oui, tout à fait.
Et c'est aussi un outil pour vous de faire avancer l'histoire.
Oui, tout à fait. Oui. Là, il y a un peu plus effectivement de scénarisation. Et donc c'est Étienne qui écrit tout, qui a tous les plans en tête, et surtout on a une équipe de ensuite réalisateurs et puis cadreurs, caméraman qui nous suit depuis le premier clip. Donc eux, ils ont évolué aussi, puisque maintenant, il y en a un qui travaille vraiment, vraiment fort, et qui commence à être, donc Teddy Masson, qui commence à être vraiment demandé par pas mal de personnes. Et il a tenu à travailler sur ce clip-là, parce que depuis le début, il croit au projet, et puis il aime bien, et il désire, quoi qu'il arrive, toujours être dans la partie.
C'est une journée, deux journées, combien de temps de...
Cette année, c'était 3 jours. Enfin, cette année, ce troisième clip, c'était 3 jours. Le premier, ça a été en 8 heures.
Et ça sort quand ?
Alors, ça sort dans 1 mois et demi, normalement, grand maximum.
Là, vous annoncez que le montage est fait, quoi ?
Oui, alors là, la partie maintenant la plus importante, c'est l'étalonnage des couleurs et surtout les effets spéciaux.
Ah, d'accord. Ça y est,
parce que là, on avait un ou deux effets... dans Traders, et là apparemment, alors j'ai dit, tu vas me sembler bizarre, je dis apparemment, parce que en fait je me refuse à savoir ce qui va se passer dans le clip.
Tu vas le découvrir quasiment comme le plus.
Voilà, je vais le découvrir comme tout le monde. Donc j'ai tourné des scènes, je sais pas pourquoi je les ai tournées, on m'a dit tu fais ça, il faut faire ça.
J'espère qu'il y a la logique dans la tête, mais toi,
oui,
tu sais
voilà,
pas.
Donc il a dit il faut que je te montre les réalisations 3D de Teddy, mais je dis non, je veux pas les voir. Je ne veux sûr qu'on va les voir.
D'accord.
Voilà. Moi, je veux voir le produit fini.
Un mois et demi, donc ça fait courant mars.
Ouais, je pense que ça va être courant mars, ouais. Tu vois, puis petit apéro.
Ça va être un outil visuel pour vous sur scène ou ça, vous allez l'intégrer?
Non, on l'intégrera pas parce que tous les clips, c'est vraiment très condensé.
D'accord.
L'outil visuel, on conserve ce qu'on a actuellement en background vidéo. Ça, on conserve. On a plein d'images. Parce que tous nos concerts, derrière, il y a des images vidéo qui viennent appuyer. Notre prestation.
D'accord. Juste pour terminer, c'est quoi les étapes à venir là, qu'est-ce qui vous attend dans les semaines et les mois qui viennent?
Maintenant on va être tranquille jusqu'à début avril, mais tranquille au niveau live. Mais ils ont de leur côté la visualisation du clip pour savoir si tout se passe bien. On a bien sûr la finalisation de l'album. Maintenant, on espère pour fin 2018.
D'accord, donc ça peut être encore cette année.
Oui, ça peut être. Oui, c'est l'objectif. Donc, si tel est le cas, de toute façon, je pense qu'on aura un événement pas majeur, mais un événement bien travaillé sur Paris. En live.
Release party.
Tout à fait. Mais on va dire une release party, mais vraiment plus.
Oui.
Voilà, vraiment.
Oui, pas juste vous
soirée.
Dans le bar.
Non, ça sera certainement une soirée donc où il y aura un concert de Chargot avec Scoussi, tout le décor, vraiment le décor qu'on aimerait avoir tout le temps. Et ensuite un after show qui dure jusqu'à, avec une soirée dans le même type, jusqu'à 5h du matin. Quoi.
D'accord. Et dernière question, de ton point de vue, voilà, avec l'expérience, ton vécu, qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu peux nous dire de la scène métal électro française?
Ouais, je vais parler de la scène électro métal.
Elle
est malheureusement la scène électro, elle est métal, elle est en France, elle est difficilement représentée parce que il n'y a pas de label véritablement français qui justement donne cette impulsion de vouloir monter quelque chose de bon. Alors qu'en Allemagne, ça y est. Et ça décourage beaucoup de formations.
En Allemagne, il y avait Oblivion qui était un sous-label de SPV, qui faisait un peu de trucs comme ça. Donc...
Ouais, puis il y a surtout le gros Out of Line.
D'accord.
Qui truste tout le.
Et donc, c'est un peu, vous souffrez d'être un peu le cul entre deux chaises, donc les labels purement électro vous intéressent pas, et métal non plus.
Et oui, si tu as un label métal, il va pas s'intéresser. Il y a trop d'électro, lui, il est fait pour le métal, il n'a pas son réseau, et puis il a très bien vu que l'électrométal Indus en France, voilà, oui, ça marche, mais ça peut. Voilà, c'est assez problématique. Mais il en faut un ou deux pour que ça.
Et alors autre chose, effectivement, quand tu entends parler, une contrée plus favorable à votre genre, c'est la zone germanique, l'Allemagne, Suisse, ça.
Ouais, tout à fait.
Vous tentez votre chance là-bas, enfin vous avez testé.
On a eu l'opportunité quand même de jouer au Meraluna. Donc ça nous a quand même ouvert des portes parce que tout d'un coup. forcément, les programmateurs allemands ont vu un groupe français débarquer qui faisait ce style-là, alors que normalement, c'est pas aux Français de faire ça.
Non, non.
Donc, parce qu'on parlait justement après ce festival, après notre prestation, on parlait beaucoup avec le public, et quand on leur parlait, donc les gens leur parlaient en anglais, donc ils s'étonnaient, quoi, vous n'êtes pas allemand, non. Mais vous êtes anglais, non. Bah, vous venez d'où? Bah, de France. Hein? De France? Bah, non. Mais d'où de France? Paris? Mais non, Paris, ils font pas ça à Paris, c'est pas possible.
Bah, si.
Bah, voilà, bah, si. Donc, déjà là, tu vois, il y avait une interrogation, une surprise, et mais l'Allemagne, oui, ça, forcément, bah, on a eu des propositions. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se déplacer pour en mettant de notre poche. Et voilà. Donc les Allemands, ils payent très peu.
Ah ouais, notre, ouais, je savais pas.
Enfin, du moins, les groupes, voilà, ils ne payent pas énormément. Mais surtout, on présente un show. Donc, on ne peut pas.
Vous n'avez pas une guitare, un machin, merci.
Oui, voilà, à demi, on ne peut pas. Donc, on a des frais qui sont incompressibles. Et malheureusement, on ne peut pas aller en dessous. Parce que sinon, si on fait 4 concerts et qu'on fait à chaque coup 400 euros de notre poche.
Ça commence à faire notre
chose.
Oui, et puis malheureusement,
elle parle. Et puis, il y a un respect quand même.
Et puis, les gens ne vont pas voir Chargotte tel qu'il est, quoi.
Ben, si, ils vont le voir, enfin, tel qu'il est, parce que nous, on ne peut pas faire les choses à moitié.
Voilà, donc c'est soit tout, soit rien. D'accord. Bon, mais prendre des contacts, se faire connaître, toujours. Voilà.
Alors que c'est possible, puisqu'on va jouer aux Pays-Bas en avril, on va jouer en Belgique, on a déjà joué en Suisse, on a des propositions en Italie, en Espagne, on va jouer en Pologne. Normalement, ça
vous
aider.
Vous tournez autour, mais
ouais,
vous allez bientôt.
Mais c'est ce qu'on a dit. C'est que, bon, on va tourner autour, et puis au bout d'un moment, on va dire ah, ben finalement, on va peut-être les prendre ceux-là, parce que. Voilà.
Bon, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite.
Ouais.
Merci.
Ben, merci en tout cas.
À bientôt.